Théodore de Banville, le vin samien. Hier, en passant dans la rue Zacharie, si triste et sombre, située en face de Notre-Dame, j'ai vu dans une cage, à la porte d'un bouge hideux, un perroquet déplumé, sinistre, accablé de vieillesse, si âgé que son regard est devenu presque humain. Il semblait que, là, d'un long malentendu, il allait enfin rompre le charme qui empêche les hommes de parler avec les bêtes. Car ses yeux mystérieux fouillaient les passants jusqu'au fond de l'âme, et de sa voix mourante, éraillée, brisée, mais stridente encore, il en jetait comme une prophétie et comme une menace funèbre ces deux mots implacables « Vous reviendrez !» En entendant proférer ce cri épouvantable, je ne doutais pas qu'il fût le même oiseau dont le doux Elmery de Lons m'a parlé tant de fois et qui avait jeté dans son âme une douleur si atroce lorsqu'il l'avait entendu crier il y a bien longtemps les deux mots fatidiques « Vous reviendrez !»« Vous reviendrez !» Mais n'est-ce pas la voix même du remords et le dégoût de l'action commise qui, éveillé dans sa conscience, parle ainsi au libertin, lui annonçant qu'il ne pourra pas se délivrer de la souillure, qu'il chérira l'ignominie et qu'il retournera à son vil festin. En vain, ses lèvres veulent se révolter et son cœur se soulève. Plus sincère et moins hypocrite que sa fausse rébellion, l'appétit de la morne ivresse qu'il a conquis et qui le tient, lui crie avec une certitude qui ne souffre nulle contradiction « Vous reviendrez !» Quoi qu'on ait dit et quoi qu'il en ait, pensait lui-même, lorsqu'il s'en allait pour 2 ou 3 mois en village tir chez le docteur Blanche, Emery de Loss n'a jamais été fou. Il ne l'était pas lorsqu'il écrivait ses sonnets mystiques, si faciles à comprendre pour quiconque n'a pas perdu le sens poétique. Il ne l'était même pas lorsqu'il se pendit un réverbère dans la triste rue souterraine, fatigué d'être garrotté dans les lianes de la chair, et délivrant ainsi son âme frémissante, dont il sentait s'agiter en lui les impatientes ailes de papillon, avides de l'espace infini et de la lumière. Il n'a jamais été fou, il n'était pas fou, mais dans ses longs voyages, il avait appris les idiomes de l'Orient, les langues sacrées, il avait conversé avec les sages de tous les pays, il avait été initié au mystère, il connaissait tous les dieux. Son esprit était assez affiné et subtilisé pour percevoir quelquefois ce qui échappe au sens matériel et pour s'affranchir un instant par un ardent coup d'aile de ces fictions grossières qui se nomment le temps et l'espace. Par un soir embrasé du mois de juin, Emery de Loss marchait dans la rue Saint-Honoré en riant comme un bossu. Dans sa joie d'avoir obtenu un acompte à la revue mondaine, il s'amusait à choquer l'une contre l'autre les 2 pièces d'or qu'à force de douceur il avait arrachées à ce recueil chimérique. Et par moments aussi, dans son ravissement, il fredonnait une chanson grecque tendre et caressante qu'il avait jadis entendu au bord de l'Eurotarse. Oui, sous les énormes platanes et sous les hauts lauriers roses, en face du pont vénitien, d'une seule arche et de rochers à pic, rouges et dorés, tandis que l'eau claire et limpide courait sur un lit de sable fin, laissant voir parfois dans son flot transparent comme de vagues blancheurs de cygnes. Celle qui la chantait était une belle fille, portant sur sa tête une rue cruche pleine d'eau. Elle était vêtue d'une tunique blanche, ornée au bas de broderies aux couleurs éclatantes. Le corsage était court et échancré sur sa poitrine, que la chemise recouvrait. Elle avait la taille serrée par une ceinture avec 2 grandes agrafes d'argent. Et dans sa main, elle tenait une branche de saule, aux feuilles pâles, qu'elle laissait tomber négligemment traînées dans le sable. Mais comme Emery s'était arrêté pour faire encore une fois sonner ses pièces d'or, Il ne fut pas médiocrement surpris d'entendre une femme qui marchait à côté de lui chanter la fin du couplet interrompu, car il est fort rare qu'on parle grec dans la rue Saint-Honoré. Il regarda sa compagne de route improvisée. C'était une femme, presque vieille déjà, qui avait dû être belle, mais dont les yeux comme noyés, les narines immobiles et la bouche provocante exprimaient le vice indélébile. D'ailleurs, sa robe fripée, unie, déchirée, et ses cheveux en broussaille étaient d'une personne qui s'abandonnait renonce à lutter contre la misère. « Monsieur Delos ne me reconnaît pas ?» dit-elle. « Louska, Louska, de chez Monsieur Lamberti, à Athènes, dans la rue d'Éole. » À ces mots, Emery se rappela tout. En effet, lors de son voyage en Grèce, un ami l'avait conduit chez Monsieur Lamberti, négociant italien établi à Athènes, chez qui on faisait bonne chère, et dont la femme extrêmement jolie s'était appris avec une rare intuition l'élégance parisienne. Madame Gemmata ne passait pas pour farouche, ne l'était pas. Quant à M. Lamberti, c'était un enragé coureur de bonne fortune qui, toujours occupé d'un nombre incalculable de dames et de fillettes, ne se souciait aucunement des aventures de sa femme. Il était alors de notoriété publique que la brune Louska s'employait aux amours de la dame comme à celles du mari, et qu'elle recevait de toutes mains, chassant d'ailleurs aux amourettes pour son propre compte. Elle était déjà plus toute jeune, mais ses yeux et son impudent sourire promettaient tant de choses que plus d'un curieux les prenait au mot, et pas un ne s'était plaint de les avoir crus sur parole. Comment Louska s'était-elle brouillée avec un ménage où elle était si utile? Et comment se trouvait-elle à Paris, vieille et misérable? C'est ce qu'elle ne dit pas, car occupée de soins plus importants, elle regardait les deux louis qui brillaient dans la main d'Almery et cherchait le moyen de les faire passer dans sa propre poche. Le moyen n'était pas difficile à trouver. Louska se rappela à point nommé que ce poète, d'ailleurs plein de génie, était assez enfant et assez spirituel pour croire tout ce qu'on lui pouvait dire. Et elle lui conta d'abondance une histoire de princesse grecque belle comme le jour qui, soupçonnée à tort par son mari, s'était enfuie avec sa cassette de diamants, aidée par elle, Louska, et elle expliqua aussi comme quoi elle avait été toutes les deux enlevées par des pirates. Les péripéties à la suite desquelles elles avaient pu gagner Paris à travers tant d'aventures inouïes, mais en ayant eu le bonheur de rester toujours sages, n'auraient été déplacées ni dans un conte de Boccace, ni au dénouement d'une comédie de Molière. De tout temps, les bons poètes se sont contentés de ces inventions, et Emery Delors n'était pas pour s'inscrire en faux contre ce qui les a charmés. Bref, la princesse grecque était chez Louska. Elle serait enchantée de causer avec un humble poète qui pourrait lui parler la langue de son pays. Mais peut-être ne serait-il pas maladroit de lui offrir un petit goûter de bonbons, de menus pâtisseries et de confitures. Telle était la transition grâce à laquelle Almery donna ses deux louis sans la moindre difficulté. Seulement, il demanda le nom de la princesse, et sans avoir cherché trop longtemps, sa compagne lui répondit « Simodos ». Tout en causant, on était arrivé dans l'affreuse rue des Moineaux, à la porte d'une maison branlante, sans portier, dont l'escalier était noir comme la gueule d'un four. Pour gravir les marches déjetées, Louska avait pris la main d'Almery. Elle la serrait nerveusement de toutes ses forces, et le poète comprenait que ce que cela voulait dire. « La princesse est là, soyez tranquille. » Enfin, la génoise ouvrit une porte, frotta une allumette contre le mur, et Emery vit alors un taudis aux meubles écopés, mal éclairé par un bout de bougie dont la stéarine qui avait coulé irrégulièrement affectait les formes de monstres. Après avoir fait asseoir le poète sur une causeuse couverte en damas de laine rouge et qui vomissait le crin et l'étoupe aussi par ses trous béants, elle redescendit pour aller aux provisions. Au bout d'un moment, elle rentrait et plaçait devant Almery, sur une table boiteuse, un verre à demi opaque et une bouteille sur laquelle ces mots prétentieux « vin samien » surmontaient une adresse d'épicier. En même temps, elle eut l'heureuse idée de décrocher du mur une guitare qui n'avait pas perdu toutes ses cordes et de la mettre dans les mains du poète. Seulement, elle semblait assez embarrassée pour fournir la princesse, craignant peut-être de ne s'être pas avancée et de ne pas pouvoir la décider à recevoir la visite d'un inconnu. Ce en quoi elle avait tort, car ainsi qu'Almery de Loos me l'a raconté, ce qu'il devait voir dépassa de beaucoup son attente. Sans doute, se faisant légère pour ne pas le troubler, tandis qu'il s'était remis à chanter des chansons grecques, Louska avait tout disposé à souhait et avait disparu ensuite sans faire aucun bruit. En effet, lorsqu'il posa la guitare à côté de lui sur un tambouret de nacre, les vieux meubles avaient été cachés sous des étoffes orientales. Des bougies transparentes brillaient et brûlaient dans les flambeaux d'argent, et les gâteaux d'amandes, les fruits vermeils entourés de feuilles, les crèmes glacées étaient élégamment servies dans des soucoupes d'or, sur une nappe blanche comme la neige, posée sur un épais tapis de Smyrne. Enfin, Simodos entra, vêtue de sa robe couleur de rose, si belle, si divinement belle, avec sa chevelure en longue tresse et ses deux yeux verts attirants et profonds comme la mer. Chose étrange, Emery ne le fit pas l'effet d'un étranger. Sans nul embarras, ils causèrent ensemble à plein cœur. Il semblait qu'ils étaient toujours connus. Tout de suite, en la voyant, le poète l'avait aimée, et elle aussi lui parlait affectueusement comme à un ami. Ils revoyaient ensemble les bords du Céphis et de l'Ilissus, et ce délicieux ladon au bord duquel la terre est couverte de jeunes fougères, tandis que l'herbe est semée de boutons d'or et de mauves sauvages. Emery, avec ses belles images qu'il trouvait aisément, louait la beauté de Simodos et cette belle princesse souriait. Parfois il se taisait, et Simodos récitait à Emery ses propres vers, qu'elle savait tous par cœur et dont elle gardait le rythme comme un poète. Et en même temps, sa longue main blanche jouait avec les roses rouges et roses dont la nappe était jonchée. Pendant une heure, Emery s'enivra de la chère voix. Mais Simodos lui avait dit tristement qu'elle ne pouvait rester longtemps avec lui. Et bien qu'il ne l'eût pas comprise, la raison qu'elle lui avait donnée lui sembla irréfutable. Quand vint le moment fixé par elle, elle parut souffrir cruellement, et même alors, par une illusion singulière, il sembla à Emery que sa figure s'effaçait, confuse et tremblante, dans la lumière de la chambre. Quant à lui, il avait le cœur brisé, mais, obéissant à une loi cruelle, il n'eut pas l'idée de retenir la princesse, et lorsqu'elle s'enfuit, légère comme une ombre, après lui avoir tendu sa main fraîche, il resta abattu, cachant sa tête dans ses mains. Combien de temps, oh, longtemps sans doute, car lorsqu'il regarda autour de lui, Louska avait eu le temps d'enlever le couvert. Il n'y avait plus que les vieux meubles, le verre épais, le vin samien de l'épicier, et la bougie qui coulait dans son chandelier de fer et formait de blanches cascades figées. Emery éprouva à l'instant le besoin de quitter ce lieu détestable et charmant. Il emportait avec lui le plus adorable souvenir, et cependant, sans cesse, avec le revers de sa main. Il frottait et essuyait son cou d'un geste machinal, comme s'il avait vaguement conscience d'avoir reçu là un baiser qui lui faisait horreur. En même temps, dans sa bouche comme brûlée, il sentit le goût pâteux du vin samien. Il se sauva précipitamment, sans s'apercevoir que Louska l'accompagnait, et lui serrait la main, comme elle l'avait déjà fait en montant l'escalier. Mais au moment où il traversait l'étroite et noire antichambre, une voix absurde, ironiquement féroce, le glaça d'épouvante. C'était le perroquet, le vieux perroquet déplumé, qui éperdument lui criait avec une sombre joie « Vous reviendrez !» Hélas, le doux poète Emery de Loss est mort depuis longtemps. Mais non le vieux, l'invincible perroquet. Et je l'ai entendu crier ce refrain abominable, hier encore, à la porte du Bouge, dans la rue Zacharie.